Lanigan poussa un soupir. Le commissaire, c'est ingénieux, je le reconnais. Mais il n'y a pas de preuves. Le rabbin, tout s'emboîte dès lors logiquement. Et nous reconstituons les événements de ce jeudi d'une manière qui est enfin raisonnable. Elle soupçonne qu'elle est enceinte et elle profite de son jour de congé pour consulter un spécialiste. Elle s'habille avec soin et n'oublie pas de mettre une alliance. Est-ce celle de sa mère? L'a-t-elle achetée d'occasion quelque part en espérant qu'elle aurait bientôt le droit de la porter? Nul ne le saura jamais. Chez le docteur, elle déclare s'appeler Elizabeth Brown. Non pas à cause de Bronstein, comme vous l'aviez supposé, mais parce que c'est un nom aussi courant que Smith et qu'elle conserve ainsi ses initiales. Le docteur l'examine et lui confirme qu'elle attend un enfant. Or, Bronstein nous a dit que lorsqu'il l'a aperçue au restaurant, elle consultait nerveusement sa montre, comme si elle attendait quelqu'un. Elle a également attendu pour commander son menu, n'est-ce pas? Je pense qu'il se voyait tous les jeudis soirs quelque part, et qu'elle lui avait téléphoné pour lui fixer un rendez-vous spécial. La secrétaire du docteur s'est souvenue qu'elle a demandé où il y avait une cabine téléphonique, dit Lanigan. Le rabbin. Norman a dû lui dire qu'il essaierait de se rendre libre, et elle l'a attendu au Surfside. Le commissaire. Et pourtant, elle a accepté l'invitation de Bronstein. Le rabbin. Ne croyez pas qu'elle s'est sentie vexée quand il n'est pas venu, et peut-être inquiète. Bronstein nous a raconté la scène. Il a choisi le bon moment. C'est un homme d'âge mûr, respectable, et elle n'a vu aucun danger à dîner avec lui. Après tout, elle se trouvait dans un lieu public. Au cours du repas, elle s'est dit que cet homme était gentil, décent, sérieux. Elle s'est laissée tenter et est allée au cinéma avec lui. Elle avait surtout besoin de compagnie. Imaginez son état d'esprit. Il la ramène chez elle. Elle commence à se déshabiller et elle entend la radio annoncer les fiançailles de Norman. Le commissaire. Or, elle sait que Norman doit téléphoner de la borne située à l'angle de Maple et de Vine Street à 1 heure du matin précise. Elle enfile son manteau, jette son imperméable sur ses épaules parce qu'il pleut et parce qu'elle doit parcourir plusieurs blocs, et elle se précipite dehors. Est-ce bien cela, rabbin? Le rabbin. C'est ce que je crois, commissaire. Le commissaire. Et alors, qu'est-il arrivé d'après vous? Le rabbin. Il pleuvait et averse. Il avait vu ma voiture dans le parking de la synagogue. Je suppose qu'il a proposé à Elspeth de s'asseoir à l'intérieur pour discuter de la question. Il s'asseye derrière et lui offre une cigarette. Ils ont parlé au moins le temps de la fumée. Ils se sont disputés sans doute. Peut-être l'a-t-elle menacé d'aller trouver sa fiancée. Il a attrapé le collier qu'elle portait et l'a tordu. Il ne pouvait pas laisser le cadavre sur la banquette, car on lui aurait demandé comment il ne l'avait pas vu en faisant sa ronde. C'est alors qu'il aurait dû fournir pas mal d'explications. Il l'a transporté jusqu'à la pelouse. Il l'a caché derrière le petit mur. Il n'a pas pensé au sac qui avait glissé sur le plancher de la voiture. Le commissaire. J'espère que vous vous rendez compte, monsieur le rabbin, que vous n'avez pas un commencement de preuve. Le rabbin eut un geste d'impuissance. Le commissaire. Mais tout se tient, rabbin, tout se tient. Si elle allait trouver les Ramsay, c'était la fin des fiançailles. Je le connais, les Ramsay. Ce sont des gens propres, fiers. Mais je croyais le connaître, lui aussi. Il leva sur le rabbin un œil interrogateur. Le commissaire. Et c'est chez les Serafino que vous avez contrôlé tout cela, après l'avoir soigneusement mis au point dans votre esprit. Le rabbin. Pas exactement. J'avais un vague soupçon, mais quand j'ai vu le poste de radio dans la chambre d'Elspeth, tout a commencé à prendre forme. Naturellement, j'avais un gros avantage sur vous. Dès le début, je me suis méfié de l'agent Norman. Le commissaire. Comment cela? Le rabbin. Il a affirmé qu'il ne m'avait pas vu, mais moi je savais le contraire. Quelle raison pouvait-il avoir? Il ne me connaissait pas personnellement. Ce ne pouvait être de la simple antipathie. S'il admettait qu'il m'avait rencontré, il confirmait que j'avais quitté la synagogue avant le moment du meurtre. Rejeter le soupçon sur moi ou sur quelqu'un d'autre, n'était-ce pas se disculper? Mais pourquoi se disculpait-il? Le commissaire. Comment se fait-il que vous ne m'en ayez jamais dit un mot, monsieur le rabbin? Le rabbin. Ce n'était qu'un soupçon. Et de plus, ce n'est pas facile pour un rabbin de désigner un homme et de dire qu'il est un assassin. » Lannigan garda longtemps le silence. Le rabbin soupira. Le rabbin. « Naturellement, nous n'avons encore aucune preuve. » Le commissaire. « C'est le moindre de mes soucis. » Le rabbin. « Que pensez-vous faire ? » Le commissaire. « Je peux lui demander, par exemple, ce qu'Elspeth Blich lui a dit au téléphone jeudi après-midi, ou pourquoi il n'est pas allé au rendez-vous qu'elle lui avait fixé au restaurant Surfside. Mais d'abord, je vais tout arranger pour que Célia le voie. » D'après elle, Elspeth a dansé tout le temps avec le même homme lors du bal des policiers et des pompiers. Si notre théorie est juste, c'est Norman, et elle le reconnaîtra. Puis nous interrogerons les Simpson, qui habitent juste en face de Serafino. S'ils lui rendaient visite aussi souvent que nous le pensons, ils ont peut-être remarqué sa présence le soir très tard dans les parages. Ses lèvres se détendirent dans un sourire imperceptible. Le commissaire. Lorsque nous savons ce que nous devons chercher, mon cher rabbin, nous le découvrons sans trop de difficultés.